pour la promesse qui nous a été faite et pour la grâce qui nous est donnée de être ensemble ce matin dans sa présence. Je tiens à remercier votre pasteur, son épouse, pour l'invitation. C'est pour nous une joie d'être avec vous. Je suis là avec mon épouse, deux de mes trois enfants. Le grand, ben, lui, il a pris déjà son envol, donc il habite déjà près de la Suisse. Lui, il est installé. Mais les deux derniers, ils sont avec nous ce matin. Et c'est avec joie qu'on découvre cette belle région, mais surtout cette belle église. Eh bien oui, parce que vous savez, quand vous aviez lancé les projets de construction des bâtiments, je connaissais déjà très bien votre pasteur précédent, notre frère Alain Garcia, et il m'avait partagé le projet, il m'avait montré les plans. Je lui ai dit, écoute, ça va être certainement magnifique. Mais maintenant, de le voir, je me dis, oui, c'est magnifique. Alors Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il va continuer à accomplir par vous tous. Parce que ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est vous. Amen. Ce matin, je voudrais juste prendre quelques instants pour donner mon témoignage. S'il m'a dit, ça serait bien que tu puisses un peu partager. Alors, en quelques mots, je suis né en France. Alors, je suis plus jeune que votre pasteur. Il a quel âge, votre pasteur? 18 ans. Hein? Non. Mais je suis plus jeune d'un jour. Ah oui, plus jeune d'un jour. Il est né le 9, je suis né le 10. Mois d'août 1971. Vous avez vu ça? Comment le Seigneur fait les choses? Incroyable. Donc je suis né à Metz. Mon papa et ma maman sont d'origine italienne. Et j'ai fêté mon premier mois de vie en Calabre. En effet, mes parents ils sont partis comme missionnaires en Calabre. Et je n'ai pas eu la joie et le bonheur de grandir avec toute la famille. Mais on a été envoyé par le Seigneur. C'était un fardeau que Dieu avait mis sur le cœur de mon papa avant de se marier. Il avait eu l'occasion de partir pour un voyage missionnaire en Calabre et Dieu lui avait mis un vrai fardeau sur son cœur. Ça a pris un peu de temps, le temps de se marier, de laisser le temps de Dieu. Vous savez, il y a l'appel de Dieu, mais il y a aussi le temps de Dieu. Et ça a été tout de suite après ma naissance qu'ils sont partis en Calabre. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et il y a eu un moment dans ma vie où je ne comprenais pas le choix de mes parents. Ce n'est pas parce que les parents sont convertis, chrétiens engagés, que forcément les enfants n'ont pas leur choix à faire. Et le problème, c'est que dans le cadre où on vivait, la violence régnait. On avait à peu près 100 à 120 morts par an tués. Et le cadre dans lequel je grandissais, l'école dans laquelle je me trouvais, ben la violence était au quotidien. C'était la loi du plus fort. Et à un certain moment, moi je me suis dit, puisque autant que missionnaire, on connaissait quand même certaines difficultés, moi j'ai dit, ben pour moi, j'accepte pas ça. Mon père m'a déraciné de mon pays, m'a déraciné de ma famille, je veux plus de Dieu. Et le jour où j'ai dit, je ne veux plus de Dieu, j'ai senti un grand vide dans mon cœur. Mais vous savez, l'orgueil, c'est une mauvaise conseillère. Et à ce moment-là, je suis parti un peu dans ce cadre de violence. J'ai mis un pied dans la mafia. J'ai failli tuer deux personnes. J'ai failli me faire tuer moi-même. Pour moi, la règle était celle des poings. Celui qui frappe le premier, qui frappe jusqu'au bout et qui reste debout, ben, c'est lui qui a raison. Jusqu'au moment où un jour, mes amis avaient décidé de violer une fille. Et moi, j'ai dit, j'ai bien fait des bêtises dans ma vie, mais jamais ça. Ça, c'est pas possible. Il y avait une éducation qui m'avait été donnée, et pour moi, c'était pas possible une chose pareille. Donc, j'ai empêché que ça se produise. Mais en même temps, vous savez, quand le Seigneur nous aime et nous cherche, nous, on peut choisir de se cacher, mais où est-ce qu'on peut se cacher du regard de Dieu? Où est-ce qu'on peut fuir du regard de Dieu? Et mes parents priaient pour moi, l'église priait pour moi. Et un jour, j'étais assis sur un banc, j'attendais mes amis. Et j'ai fermé mes yeux un instant et j'ai vu le film de ma vie passer devant les yeux. Un instant, un flash. Et tout était en noir et blanc. La seule partie qui était en couleur, c'était quand j'étais dans les écoles du dimanche. Et plus le film avançait, plus les images devenaient plus noires que blanches. Et du moment où j'avais dit à Dieu que je ne voulais plus de lui dans ma vie, alors tout était devenu très sombre. Et j'ai senti à ce moment-là que Dieu me disait, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer sur mon banc. Il n'y avait personne à côté de moi pour me témoigner. Il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Il y avait celui qui était l'essentiel, le Seigneur. Je suis rentré à la maison et j'ai demandé pardon à mes parents. Et vous savez, pas une seule fois. Parce que mes parents, malgré tout, ils en ont bavé avec moi. Je mettais des coups de poing dans les murs et je disais à mon père, tu vois ce coup de poing? Normalement, c'était pour toi. Je suis gentil, hein, je te le donne pas. Terrible, hein? Je payais jamais mon billet de train. Le contrôleur, il me connaissait, on m'embêtait pas. Et s'il voyait quelqu'un à la place des bagages, il savait que j'étais passé par là. Mais oui. Et le jour où on a commencé à voir que je n'étais plus comme ça, ça a posé bien des questions autour. Et vous savez, dans certains milieux, on n'y rentre pas comme ça, on n'y sort pas comme ça. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, tu as sauvé mon âme, tu me pardonnes, maintenant il faut sauver ma vie. Et ça, c'est encore autre chose. Et parmi les choses que le Seigneur a montrées dans mon cœur, dans mon âme, c'est que c'est un parcours. On arrive au Seigneur, c'est bien, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Néanmoins, il faut faire face aussi à ses propres responsabilités, il faut faire face aussi aux conséquences de nos actes. Et je sentais que le pardon de Dieu était là, mais que de ma part, il y avait quand même des démarches à faire. Et une nuit, le Seigneur m'a donné un songe où je me voyais marcher dans la forêt. Et vous savez, quand on marche dans la forêt, on casse une branche, on marche sur des fleurs, on abîme ceci, on abîme cela, et des fois on s'écorche. Des fois, il y a un petit bout d'habit qui se déchire. Et j'étais arrivé auprès du précipice. Dieu me montrait en réalité jusqu'à où j'avais été dans ma vie. Au passage, je pensais au suicide. J'étais allé très loin, trop loin. Et là, le Seigneur me disait, maintenant, il faut faire le chemin à l'envers. Et là où tu as cassé quelque chose ou quelqu'un, tu vas lui demander pardon. Ah Seigneur, ça c'est dur. Ça c'est dur. Je me rappelle d'un jeune que j'avais dû expliquer mon point de vue et qui à chaque fois qu'il me voyait, il changeait de trottoir. Alors un jour, je me suis dit, maintenant, Seigneur, lui, il va falloir que je règle aussi. Hein. Alors il me voyait, il changeait de trottoir. Je change de trottoir pour le voir et il rechange de trottoir. Et on a fait ça 3-4 fois. À la fin, on s'est croisé au milieu de la route. Je lui ai dit, arrête-toi, on va prendre un café, je dois te parler. Il a fallu aussi la régler. C'était compliqué, mais nécessaire. Alors venir au Seigneur, c'est la chose la plus belle, la plus incroyable. Mais Seigneur veut aussi qu'on assume et qu'on prenne la décision, puisque lui nous a montré le chemin du pardon, le chemin de la grâce, ben, il faut y marcher. Et si cette grâce, ce pardon, il est pour nous, il est aussi pour tous ceux et celles à qui on a pu faire du tort, et on a le devoir de leur montrer qu'il y a quelque chose qui s'est produit en nous. Alors Seigneur a fait cette œuvre, et les anciennes amitiés, les anciennes relations, par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté. J'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés, elle est venue habiter en Italie pendant 5 ans. Et après ces 5 ans, pour nous, on sentait dans notre cœur le désir de servir le Seigneur, mais moi je disais au Seigneur, ça ne sera pas sous mon père. Je ne veux pas que ça soit une passation, entre guillemets, excusez-moi, hein, de père en fils. J'ai dit, si tu veux vraiment que je te serve, Seigneur, ça sera où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Attention à ce que vous priez. Parce que du coup, le Seigneur nous a ramenés en France et c'était vraiment pas là que je voulais aller. En Alsace, c'était vraiment pas là que je voulais aller. Mais j'avais dit quelque chose au Seigneur et Dieu n'est pas sourd. Et quand j'étais prêt à quitter la Calabre pour venir en France, il y a un chef mafieux qui est venu me voir. Parce que vous savez, Dieu sait à quel moment tourner les pages de notre vie. Et ce chef mafieux est venu me voir et me dit, eh ben, tu pars. J'ai dit, ben, vous le savez, si vous êtes là, vous le savez. Il dit, tu vas où? J'ai dit, ça aussi, vous le savez. Je pars sur Mulhouse. Sache qu'on a des amis là-bas et si tu as des problèmes, tu as juste à me téléphoner. J'ai dit, vous savez, je pars en paix. Je veux vivre en paix. J'ai dit, ma vie a changé. Il dit, on l'a vu. Ah, c'est pour ça qu'on t'a laissé tranquille. Quand Dieu sauve notre âme, Dieu fait tout ce qu'il faut pour nous mettre à l'abri. Et béni soit le Seigneur pour le cheminement qu'il nous a permis de faire. Alors le travail dans le bonhomme continue. Hein. Vous savez, j'ai demandé une fois à une sœur si elle pouvait me faire un t-shirt avec écrit « En chantier » et derrière « Dieu y travaille ». Et je crois que l'œuvre de Dieu dans notre vie ne s'arrête jamais. Et Dieu merci, parce qu'il prend soin de ses enfants. Amen. Je vous propose de lire ensemble la parole de Dieu ce matin. La manière où le Seigneur a conduit ce temps de chant ce matin nous amène à quelque chose de particulier. Et sans le savoir, on n'a pas partagé les thèmes avec Cyril ou... Mais moi, je demande toujours au Seigneur qu'il me confirme si c'est le bon message. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte avec vous en Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 7. Est-ce que je suis devant le texte? Ça va pour vous? Autrement, je me déplace, je me décale. Il dit, la parole de Dieu, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-il non pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais par ses sacrifices. On rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang du taureau et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. On va plus loin au verset 19 et dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Le sacrifice qui a été demandé est à hauteur des attentes de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la loi, en effet, n'est que l'ombre des choses à venir. L'ombre n'est pas la lumière. Si nous examinons bien les choses, une ombre n'est pas la lumière. C'est un effet lié à la lumière. Il faut de la lumière pour faire de l'ombre. S'il n'y a pas de lumière, on est entouré de ténèbres. Et s'il y a des ténèbres, vous m'excusez, mais il n'y a pas d'ombre. On ne voit rien. Et quand on regarde une ombre, on peut imaginer quelque chose. Vous avez déjà vu les ombres chinoises? Vous savez ce que c'est, non? Comme on est capable avec les mains de dessiner quelque chose, mais en réalité, c'est les mains. Par l'ombre, on peut essayer de s'y approcher, d'imaginer, mais en réalité, on ne voit pas les choses d'une manière correcte. Combien de fois une ombre a pu faire peur? Moi, je me rappelle, gamin, ma mère, elle avait toujours le truc de m'envoyer faire une course, alors que c'était nuit, et moi, j'avais ça en horreur. Parce que pour aller au petit magasin, il fallait passer par une rue où il n'y avait pas d'illumination. Alors, gamin que j'étais, et caïd que j'étais, j'étais pas trop fier, là. Je passais dans cette rue et je chantais à haute voix. Et je disais, attention, hein. Attention, n'approchez pas parce que ça va barder. Et quand je voyais un truc qui bougeait derrière moi, j'accélérais le pas. Et plus j'accélérais, plus il accélérait. Et si je courais, il courait. Eh bien, c'était mon ombre. Et des fois, notre ombre peut nous faire peur, frères et sœurs. Il y a des ombres qui peuvent nous mettre dans la crainte. Et quand on voit exactement ce que c'est, on se dit, oh là là, j'ai vu un truc géant et à la fin, c'était un petit Playmobil. Mais dans le cas présent, la loi a été donnée pour en effet préparer la venue de celui qui est la lumière. Jésus-Christ a été annoncé dès la Genèse. Le premier sacrifice qui a été accompli dans le jardin d'Éden, où Dieu a enlevé la vie à un animal pour couvrir Adam et Ève, était déjà la figuration du sacrifice de Christ qui nous couvre de nos péchés, le sang versé qui était nécessaire. Dès le démarrage. Et à chaque fois qu'on regarde la parole de Dieu, il y a toujours un mot qui, pour moi, ressort du texte. Quelle qu'elle soit la loi qui nous est présentée, il y a toujours le message de l'amour de Dieu. Il y a un texte, je pense que vous le connaissez, qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, je vous donne l'image, il reste la mienne. Après, si vous voulez la reprendre, à vous de voir. Mais ce texte, pour moi, il est un peu comme, vous savez, ces anciennes balances qu'on trouvait dans les magasins, deux plateaux. Hein ? D'un côté, vous avez la force, de l'autre côté, vous avez l'amour, et forcément, au centre, il y a quelque chose qui doit faire l'équilibre. Et ça, c'est la sagesse. Trop de force et pas d'amour, c'est du légalisme. Trop d'amour et pas de force, c'est une séduction. Mais la force et l'amour dans la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Et on a besoin, frères et sœurs, d'avoir cet équilibre. Mais cet équilibre ne peut être reçu qu'un moment où la parole de Dieu est et apporte la juste lumière, la juste pensée de Dieu dans nos cœurs. Autrement, humainement, on est tenté d'imaginer, de penser, de croire même profondément quelque chose alors que ce n'est pas la première pensée de Dieu. On reste des êtres humains avec des limites. Et dans le texte que nous avons vu, nous avons examiné ensemble, il est question aussi que par le sacrifice identique qu'on présente mutuellement chaque année, il dit le rituel et les habitudes religieuses ne produisent pas le fruit digne de repentance. Chaque année, on amenait des sacrifices et après, on recommençait. Non ? On ramenait un sacrifice, le problème était réglé et on recommençait. Je lisais quelque chose l'autre jour qui m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est qu'en effet, le sacrificateur s'occupait de vérifier que l'animal qui était porté était selon la loi de Dieu. Vous êtes d'accord ? Il fallait qu'il soit comment ? Sans défaut, parfait. Et une fois que ça répondait, le sacrifice répondait à ce qui était le critère donné, ben l'animal était égorgé et le péché était effacer. On est d'accord sur ça? En effet, le sacrificateur, il ne s'occupait pas de la personne qui apportait le sacrifice. Et tant que ce travail continue, frères et sœurs, mais forcément, on retombe dans les mêmes problèmes. Tant que notre problème intérieur, interne, il n'est pas traité, on retombe toujours dans les mêmes choses. Jésus n'est pas venu pour à nouveau ramener des animaux au sacrifice, il s'est donné lui-même en sacrifice pour qu'en réalité l'œuvre se fasse maintenant à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça qu'il est question d'un pardon acquis, reçu une fois pour toutes. Combien d'entre vous sont heureux d'avoir reçu ce pardon? Amen. Quelle grâce pour nous encore ce matin, nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, nous avons levé même nos mains au Seigneur. On a chanté un chant, je l'avais dans mon cœur tout à l'heure. Rosetta est venue me dire, est-ce qu'il y a un chant particulier? Je n'ai pas osé le dire. Mais du coup, après, elle a entonné son chant. Et je me dis, Seigneur, t'es super! Tu as préparé tout d'avance. Et même quand nous, parfois, on peut manquer un peu de courage. Quand nous, on peut être défaillant, toi, jamais. Dieu ne manquera jamais de courage. De la même manière, Jésus n'a pas manqué de courage. Et nous l'avons lu dans le texte au verset 7, il dira alors, je viens. Combien de fois on vient au Seigneur? Combien de fois on dit au Seigneur, Seigneur, je viens? On le chante. Je viens dans ta maison, je veux te... Alléluia. C'est beau ça. Et vous savez quoi? Il y a un souci. C'est que quand le Seigneur nous demande de monter sur l'autel du sacrifice, on a tendance à repartir aussi vite. Je viens. Et Jésus ne s'est pas limité à dire « je viens », mais il dira « pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Il est question pour nous de soumettre notre volonté à la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Alors, oui, il fallait un sacrifice qui soit à la hauteur des attentes du Père, mais aussi un sacrifice qui remplit pleinement les attentes du Père. Parce que Dieu attendait un sacrifice, Jésus est venu l'accomplir, mais comment? Quoi exactement? Les versets 19 à 21 disent « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Voilà, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau, vivant, à travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Autant qu'être humain, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur d'un autre être humain. Quand vous croisez quelqu'un et vous lui posez la question « Comment tu vas ?», en réalité, vous prenez la réponse que la personne, elle vous donne. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? C'est une vraie question, hein? C'est pas un piège. Si vous faites attention, on a tous tendance à toujours à dire bien. Mais comment allez-vous vraiment? Alors on se pose un peu plus la question. Et la différence, c'est que Dieu sait exactement la réponse. Et quand Dieu nous a donné un souverain sacrificateur, je vous disais tout à l'heure, le sacrifice a été accompli une fois pour toutes, mais le Seigneur, lui, s'occupe de nous maintenant. Et quand on dit « Seigneur, je viens », soyez sûr que le Seigneur dit « Viens, je vais m'occuper de toi, parce que je t'aime. Parce que je connais les souffrances qui sont dans ton cœur, parce que je connais les peines que tu as, je sais quels sont les difficultés que tu traverses. Viens !» D'ailleurs, Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et quelle est la promesse qui est liée? Je vous donnerai. Amen. Et quand le Seigneur nous invite à venir auprès de lui, il faut être prêt aussi que le Seigneur nous libère des fardeaux qui nous pèsent. Mais parfois, frères et sœurs, on est tellement habitués à porter des fardeaux. Moi, je suis toujours impressionné par nos dames. nos sœurs. Elles ont un sac à main. Vous êtes d'accord? Alors, je ne vais pas poser la question « qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main ?» Des fois, c'est des caisses à outils. Il y a tout. Il y a tout dedans. Mais à chaque fois que j'ai dit à mon épouse « pourquoi tu prends ton sac ?»« Ah, je ne peux pas sortir sans mon sac, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manque. » Et parfois, frères et sœurs, on doit reconnaître, il y a des fardeaux, on s'est tellement habitué que si on ne les a pas, on va les rechercher parce qu'on est habitué. Il nous faut ça. Si on ne l'a pas, on a l'impression qu'il y a un problème, il y a un souci. On n'est pas à l'aise. Combien de fois il y a des situations qu'on se traîne dans nos valises depuis X temps et on s'y est habitué. Mais est-ce que Dieu nous a créés pour cela? Est-ce que c'est cela que Dieu a décidé pour nous? Est-ce que c'est cela que Dieu a choisi pour nous? Il y a plusieurs années, je lisais une méditation sur sa parole pour aujourd'hui. Vous savez, ce petit livret. Et qui parlait d'une méthode qui était utilisée par les Romains. Apparemment, quand quelqu'un tuait une personne, on prenait le corps de la personne qui avait été tuée et on l'attachait sur celui qui l'avait tué. Et on l'obligeait à porter ce corps sur lui. Alors imaginez de rencontrer quelqu'un qui a été condamné à cela. Est-ce que vous allez le saluer? Est-ce que vous allez vous lui approcher? Est-ce que vous allez lui dire « Bonjour, comment tu vas ?» Ou est-ce que vous le fuyez? Et vous savez, plus le temps passe, moins ça donne envie. Et à force, en effet, le poids qu'il portait, amenait en lui la mort. Le péché que nous portons sur nos épaules, frères et sœurs, entraîne en nous la mort spirituelle. On n'a pas été créé par Dieu pour porter ce fardeau. On ne peut pas. Et on ne peut pas le régler nous-mêmes. On a besoin qu'à un moment, le Seigneur, le souverain sacrificateur, vienne couper les ficelles qui, en réalité, retiennent nos péchés sur nos épaules. C'est devenu notre sac à dos. Lourd, parfois. Il y a tellement de cailloux qui sont dedans. Alors quand Dieu a décidé de faire en Jésus-Christ et de faire de Jésus-Christ le souverain sacrificateur, il savait très bien ce qu'il faisait. Vous connaissez le texte d'Hébreux chapitre 4 verset 15 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. » N'est-ce pas? On aime dire au monde entier qu'on est fort, qu'on est les meilleurs. Je disais hier aux jeunes la situation où j'avais dû faire un CV. Et quand on fait un CV, on fait une lettre de motivation, n'est-ce pas? Est-ce que dans la lettre de motivation, vous mettez vos défauts? Qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation? Tout va bien! Je suis celui qui vous manque. Heureusement que je suis là! Ne vous inquiétez pas! Dès que je serai là, ça ira beaucoup mieux. Mais la réalité, c'est qu'on connaît aussi nos défauts. On connaît nos problèmes. Et si on allait au Seigneur en lui disant, Seigneur, ne t'attends pas à voir en moi l'homme parfait. Parce que je vais vous dire une chose. Parfois, on a crainte de décevoir le Seigneur. Mais on ne peut pas le décevoir. Vous ne pouvez pas décevoir le Seigneur parce que le Seigneur sait exactement qui vous êtes, qui je suis. Il le sait exactement. Je ne peux pas le décevoir parce que je ne peux pas le berner. Je ne peux pas lui mentir. Je ne peux pas cacher ce que je suis. Donc, mieux m'approcher de lui en sachant qu'il est capable de compatir à mes faiblesses. Mais n'oublions pas qu'il a été tenté, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. S'il peut nous comprendre, il peut aussi nous secourir. Dieu soit béni. Deuxième texte, Hébreux chapitre 7, verset 22 à 27, il dit « Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. » De plus, ce sacrificateur en existe un grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Combien de fois on est tenté de nous sauver par nous-mêmes? Combien de fois on part avec des bonnes résolutions? Ah, je n'oublie pas les super messages que j'ai pu entendre dans ma vie. Et combien de fois j'ai pu quitter l'église en disant « Seigneur, super, j'ai compris. Maintenant, je sais ce que je dois faire. » Le jour d'après, j'étais à nouveau à genoux en disant « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai entendu ce que je devais faire, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. » Parce que j'ai essayé par moi-même. Et en réalité, je n'ai pas compris que par moi-même, je ne peux pas me sauver malgré tout ce que je peux essayer de mettre en place. En réalité, je n'avais pas compris que Jésus s'était substitué à moi. C'est lui qui a payé. C'est lui qui a réglé ma note. Et maintenant, pour moi, il est question de vivre en lui. Pour lui. Par lui. Et au moment où cela s'inscrit dans mon cœur, je comprends que j'ai celui qui en réalité peut me sauver parfaitement. On n'est pas parfait, hein, mais on doit tendre à la perfection qui est en Jésus-Christ. Amen. Dernier texte qui va dans ce sens, Hébreux chapitre 8, verset 1. Or voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Quelle place incroyable Jésus a. Et il nous invite à être assis avec lui. Sommes-nous prêts à être assis avec Christ? Oui? Qui est prêt à être assis avec Christ? Qui est déjà assis avec Christ? Levons la main. N'ayons pas crainte. Seigneur, on veut. On veut, on le désire. Avec ça, on ne dit pas qu'on n'a pas de défaut, on ne dit pas au Seigneur qu'on est déjà parfait. Si c'était le cas, on ne serait plus là. Non? Dans la parole de Dieu, je vois qu'il y avait un homme qui marchait avec Dieu, dit le texte, à tel point, qu'est-ce que Dieu a fait? Si on est encore là, c'est qu'il y a encore des travails. Alors, je ne sais pas si je vais sortir une marque de t-shirt en chantier. Dieu travaille, je ne sais pas. Ah, ça peut être une idée. Hein. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. N'est-ce pas? Alors, Dieu, le Père, aspirait à un sacrifice parfait. Jésus est ce sacrifice parfait, mais pourquoi a-t-il donné sa vie? Pour quelle raison il a souhaité donner et payer pour nous? Le texte, il nous le dit, au verset 22, il dit, frères et sœurs, approchons-nous. Si Christ, comme nous le croyons, nous le confessons et nous le remercions d'avoir été ce sacrifice, nous devons nous aussi, frères et sœurs, être le peuple qui remplit pleinement les attentes du Père. On ne vient pas ici simplement pour se retrouver. C'est beau de se retrouver. C'est beau de pouvoir partager la communion fraternelle. Et c'est important. Mais la chose la plus importante pour laquelle nous sommes là, ensemble, c'est pour être dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que Dieu parle à nos cœurs. Parce que c'est là que Dieu envoie sa guérison. Parce que c'est là que Dieu envoie sa consolation. C'est là que Dieu opère encore aujourd'hui des miracles, n'est-ce pas? Je me rappelle d'une mamie, c'était la première fois que j'étais invité à prêcher pour un message d'évangélisation. Et je peux vous dire, j'avais fait les 300 kilomètres en priant. Et j'arrive sur place et il y a une mamie qui vient me voir et me dit, « Pasteur, il dit, ça fait 17 ans que je prie pour mon mari. Et il est là. Forcément, aujourd'hui, il doit donner son cœur au Seigneur. » Alors là, elle m'a mis une pression, pas possible. Hein, je me suis dit, je me suis remis sur ma chaise. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié 3 heures, ça ne suffit pas. Et j'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu viennes au secours, parce que moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Si vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai prêché ce jour-là, je ne sais pas. Mais je peux vous dire combien j'ai pleuré ce jour-là. Parce que, en me cachant derrière, au creux du rocher, j'ai vu la main de Dieu œuvrer. Et au moment de l'appel, ce papy s'est levé, il a donné son cœur au Seigneur. Et la mamie, elle pleurait de joie. Et moi, je pleurais de joie parce que je voyais la mamie pleurer, je voyais le papy pleurer, tout le monde s'est mis à pleurer. C'était magnifique, hein ? N'est-ce pas ? Voir la grâce de Dieu. Si on est là, frères et sœurs, c'est pour voir la gloire de Dieu. Parce qu'autrement, je veux dire, on resterait à la maison, non ? Voir la gloire de Dieu. Mais je ne veux pas la voir de loin. J'ai envie de m'approcher. Et je suis invité à le faire. Et vous aussi, ensemble, il dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. On a le cadre. On a les pas, on a la démarche avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance, puisque nos péchés ont été réglés, puisque nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Maintenant, il est question pour nous de confesser quoi ? Notre espérance, n'est-ce pas ? Sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Un cœur sincère. Vous savez d'où ça vient le mot sincère ? Sincère. Et ça, encore une fois, c'est dû aux Italiens. Terrible les Italiens. Je suis d'origine italienne, pardonnez-moi. Je demande pardon pour tous les Italiens d'avant, de maintenant et de suivre. En effet, quand ils vendaient du marbre, pour cacher les défauts, les trous, ils mettaient de la cire. Et les premières fois, les acheteurs se sont laissés avoir et ils ont payé cher du marbre qui avait des défauts. Donc après, ils ont appris à prendre le marbre, à le mettre au soleil, puisque la lumière du soleil faisait fondre la cire. Et alors après, là, ils savaient s'ils achetaient du marbre sans cire. De là, ça vient le mot « sincère ». Quand on est devant la présence de Dieu, frères et sœurs, tout le maquillage qu'on a pu mettre, tous les masques qu'on a pu mettre, tout ce qu'on a pu essayer d'utiliser pour, excusez-moi, pour cacher les défauts, fondent comme la cire. Et quand la parole de Dieu nous dit de venir à Dieu sans cire, ne cachons pas nos failles. Plaçons-les devant le Seigneur et lui, il est capable de guérir une fois pour toutes, n'est-ce pas ? Il est capable d'agir dans notre cœur une plénitude et intègre foi en Jésus-Christ, un cœur en ordre, car c'est du cœur qui, dit la parole de Dieu, si le cœur n'est pas guéri, frères et sœurs, tout le reste, excusez-moi, mais il est mal en point. Si notre cœur pense mal, même si on peut faire des grands sourires à droite à gauche, notre cœur est malade. Notre cœur a un souci et tant que notre cœur n'est pas soigné, malheureusement, tôt ou tard, ça se verra. Tôt ou tard, ça sortira. Je me suis rendu compte d'une chose. Ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. Quand quelqu'un vient au Seigneur, Dès le départ, il sait exactement ce que Dieu veut. On le dit. Il faut mourir en Christ et naître en Christ. Vous êtes d'accord? Et parfois, on a cette capacité de maîtriser notre personne, maîtriser notre caractère, bon ou mauvais qu'il soit. Mais je sais que dans le Sud, il n'y a que des bons caractères. Que des bons caractères. Ça, c'est en haut. Moi, le premier, mauvais caractère. Moi, je bénis le Seigneur pour la femme qui m'a donné le Seigneur. Il savait ce qu'il faisait. Hein. La première chose que ma mère a dit à ma femme, elle a dit, tu veux le mari? Je vais te dire son caractère. Au moins, tu le sais. Parce qu'il n'y a pas de service après-vente. Ah non, tu prends, c'est comme ça. Après, tu ne le renvoies pas à la maison. Mais Dieu soit béni parce qu'il change les caractères et il continue de le faire. Hein? Quand notre caractère est maîtrisé par notre personnalité ou par notre manière de faire, le jour où, malheureusement, on n'arrive plus à avoir cette maîtrise de nous-mêmes, l'ancienne personnalité remonte. Parfois, c'est certaines choses qui viennent nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes et l'ancienne personnalité remonte parce qu'on n'a pas réglé véritablement le problème quand Dieu nous l'avait montré. On l'a couvert, on l'a maquillé. Confessons notre espérance, frères et sœurs, mais approchons-nous aussi avec un corps lavé et qui vit dans la sainteté, sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Voulons-nous voir Christ? Vous savez qu'il vient bientôt? Est-ce qu'on vit avec cette réalité? Jésus revient bientôt, il est aux portes. Regardez ce qui se passe autour de nous, tout nous dit que Christ revient. Soyons prêts. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il? Et nous, parfois, on met plein de choses avant cela, mais ce qu'il cherche, c'est la foi. Alors gardons notre cœur et notre vie dans une pleine dépendance de Dieu. Il est question de veiller, il dit le texte, veiller les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Veiller, non pas surveiller. Veiller, surveiller, c'est deux choses différentes. On est appelé à veiller pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Et vous savez comment on peut encourager quelqu'un à l'amour? C'est pas en lui disant, tu sais, tu devrais aimer un peu plus. Parce que je sais pas vous, mais moi, si on me dit ça, je me dis, ouais, c'est bien gentil, montre-moi de l'amour. Plus on aime, plus forcément on incite l'autre à aimer. N'est-ce pas? Prenez un enfant. Imaginez un enfant de 3 ans. Il vient vers vous. Il vous ouvre les bras. Il vous regarde et il attend de vous un bisou. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous vous mettez à genoux et vous dites, vas-y mon grand, vas-y mon grand. Il a su susciter en vous quelque chose. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on arrive encore à susciter ce même sentiment les uns envers les autres? C'est ça que le Seigneur nous demande. Pasteur, il a dit ce matin, comme des enfants, cette simplicité d'ouvrir les bras et dire, mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça change tout. Vous savez, quand je suis revenu à l'église la première fois, ce n'était pas évident, hein, parce que moi, les frères et sœurs, j'avais dit des choses. Mais quand j'ai vu les bras ouverts de l'église, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as inventé l'église. Merci parce que tu as voulu l'église. Merci parce que tu es le garant de ton église. Amen. C'est ça l'église. Notre responsabilité est entière, frères et sœurs. Il dit, n'abandonne pas notre assemblée comme cela est coutume de quelques-uns. Notre fidélité à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu bâtit, est aussi un gage de responsabilité, mais aussi de respect envers Dieu lui-même. Et après, nous exhortons mutuellement, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Les lois font maintenant que dans les lieux de culte, on doit avoir des entrées différentes. C'est vrai ou pas? D'un côté, c'est bien. Parce que s'il y a un problème, il faut bien pouvoir. Mais il ne faudrait pas que cela devienne pour nous une manière de partir sans régler. Il ne faudrait pas que pour nous soit une échappatoire à régler si on a quelque chose. Puisque le Seigneur revient, comment on va pouvoir un jour, frères et sœurs, ensemble? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me le dis tous les dimanches, hein, vous savez. Parce que c'est tellement facile, excusez-moi, de nous approcher du pain et du vin, mais quel est le message qui nous est envoyé? C'est la paix avec Dieu, on est d'accord? C'est la relation verticale, mais il est question aussi de la relation horizontale, et quand vous mettez les deux ensemble, ça fait la croix. Si je ne suis pas en ordre avec ma relation verticale et ma relation horizontale, mais je me trompe. J'ai besoin que les deux soient en ordre dans ma vie. Alors, oui, le Seigneur revient. Comment le Seigneur va nous retrouver? Moi, j'espère que le Seigneur nous retrouvera tous en train de chanter. Amen. Alors, ça peut être un dimanche matin. Et si c'était un mardi soir? L'église de Reims, c'est une église qui compte à peu près, le dimanche matin, on a à peu près 400-450 personnes. Moi, j'aimerais en voir autant à la réunion de prière. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous savez, j'ai visité pas mal d'églises et je me suis rendu compte que ces derniers temps, malheureusement, partout, on a le même défi. Je ne dis pas problème, parce que ce n'est pas un problème, c'est un défi. Avec Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. N'est-ce pas? Réunion d'évangélisation, même chose, même défi. Je disais à votre pasteur, le jour où j'ai fait une évangélisation, il y a eu 100% de réussite. C'est magnifique, hein? On était trois. Le frère qui projetait les champs, pas à Reims, hein, j'étais dans une autre assemblée. Le frère qui projetait les chants, moi qui faisais chanter et faisais le message, et une personne nouvelle dans l'église, qui à la fin a levé la main, a donné son cœur au Seigneur. Donc 100% de réussite, c'est magnifique. J'ai ressenti un peu comme le jour où Pierre a prêché l'évangile, 5000 conversions, 3000 conversions. J'ai dit, c'est magnifique, Seigneur. Non? Il y a une parole qui a été donnée ce matin, qui nous rappelle l'importance des âmes qui se perdent. Et je crois que le Seigneur, quand il va revenir, et il va revenir, il va nous demander à chacun d'entre nous ce que nous avons fait pour le salut des âmes. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, des anciens, des diacres, des conseils d'administration. Non, non, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et vous savez, je vous le dis comme je le. La meilleure publicité d'une boulangerie, c'est quand vous voyez les gens qui font la file pour aller y manger, non? Non? À côté de l'église à Reims, on a une boulangerie le dimanche. Tous les jours, il y a du monde. C'est bondé de monde. Vous voulez acheter une baguette, il faut attendre un quart d'heure pour une baguette. Et moi, je dis, Seigneur, je prie. Que ton église soit la même chose. Même plus, il faudrait qu'il y ait une queue qui ne s'arrête jamais. Non pas un culte, non pas deux, mais il faudrait qu'on n'arrête jamais. Parce que dans le ciel, c'est à cela que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes quelques instants? Et puisque nous avons été invités encore ce matin, le texte dit « approchons-nous ». Mais cette approche doit se faire aussi d'une certaine manière. Que nos mains soient pures, que nos cœurs soient sincères. Frères et sœurs, moi je ne connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne juge personne, croyez-moi. Moi-même encore, tous les jours, je dis Seigneur, sois mon secours, sois mon aide, sois mon soutien, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai fait consciemment ou inconsciemment quelque chose, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, purifie mes mains, Seigneur, pour qu'ils ne fassent pas ce qui ne te convient pas. Purifie mes pieds pour que je n'aille pas dans la direction que tu ne veux pas, Seigneur. Purifie mon cœur pour que mes sentiments soient justes, intègres. Seigneur, purifie, Seigneur, encore, Seigneur, mes yeux pour que je ne voie pas ce que je ne dois pas voir et que mes oreilles, Seigneur, n'entendent pas, Seigneur, des choses qui ne doivent pas être entendues. Seigneur, purifie ma langue pour que je ne dise pas de choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, encore ce matin, cet appel, cette invitation à nous approcher de toi, elle est là pour chacun d'entre nous. Seigneur, et nous savons que nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Peut-être quelqu'un ce matin est venu et il est arrivé sur le seuil du temple. Il s'est arrêté. Il est rentré dans les parvis, mais il n'a pas osé rentrer dans les lieux très saints. Et le Seigneur, c'est là qu'il nous attend. C'est là que le Seigneur nous reçoit. C'est bien de rentrer dans les parvis avec louange, avec réjouissance. Mes frères et sœurs, le voile a été déchiré pour que nous puissions rentrer. Une voie nouvelle nous a été ouverte pour que nous puissions la parcourir en Christ. Et encore ce matin, si nous avons fait quelque chose de mauvais, nous pouvons compter sur le secours du divin avocat. C'est lui qui va encore plaider notre cause devant Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin souhaiterait l'intervention de cet avocat? Alors je vous invite simplement dans votre cœur de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi encore ce matin. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'approcher de toi dignement. Que rien fasse obstacle, Seigneur. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être réglé avec le Seigneur. Faites-le, s'il vous plaît. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur reviendra. Et s'il revenait ce soir, sommes-nous prêts? Et si le Seigneur redemandait notre âme ce soir, sommes-nous prêts? Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce matin, parce que tu nous as adressé une invitation inespérée, imméritée. Tu nous as appelé, Seigneur, à un salut incroyable, merveilleux, parfait, parce qu'il est en Jésus-Christ. Et tu nous as accordé, Seigneur, une main tendue pour nous aider, Seigneur. Les marches à franchir, humainement, elles sont insurmontables, mais en toi et avec toi, Seigneur, nous le pouvons. Alors, Seigneur, merci parce qu'encore ce matin, tu es là pour aider tous ceux et celles qui viennent à toi. Tu es là pour encourager tous ceux et celles qui crient à toi. Tu es là pour soutenir tous ceux et celles, Seigneur, qui se sont peut-être, Seigneur, mis sur le bas-côté, qui ont perdu force, courage. Seigneur, nous te implorons encore ce matin pour que ta miséricorde nous couvre, Seigneur. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, viennent envahir les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous croyons que celui qui s'approche de toi ne repartira pas le même. Seigneur, si nous n'avons pas su régler nos problèmes, toi tu peux le faire ce matin. Seigneur, et là où sont nos défaillances, nous te prions, Seigneur, glorifie-toi. Rebâtis nos cœurs, rebâtis nos vies, Seigneur. Seigneur, là où il y a des couples avec des difficultés, nous te prions, Seigneur, que ta main soit sur eux. Seigneur, là où il y a des situations familiales compliquées, s'il te plaît, étends ta main. Seigneur, les relations avec nos enfants, s'il te plaît, étends ta main. Seigneur, là où il y a encore un conjoint ou un enfant ou un parent inconverti, étends ta main, Seigneur. Seigneur, fais que de nous tous, Seigneur, puisse être évidente une joie profonde parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu. De la même manière que Moïse a été dans ta présence et qu'il était rayonnant, fais que nous soyons rayonnants, Seigneur, nous aussi. Qu'en rentrant dans nos maisons, Seigneur, ceux qui ils nous voient, ils nous disent « Mais qu'est-ce que tu as vécu ce matin? Tu es rayonnant. » Oui, parce qu'on est rentré dans ta présence. et que toi seul peux faire cette œuvre de transformation dans nos vies. Merci Seigneur encore pour ton sacrifice à la croix. Et merci notre Dieu de nous avoir donné ton Fils. Merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci encore Seigneur d'embraser ton Église, d'embraser ton peuple. Seigneur, de continuer à ouvrir en nous pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.